Bonjour.
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 C'est Solidaires d'abord, et comme vous l'entendez, on est nombreux autour de la table, parce que la situation est préoccupante et que, voilà, il y a quand même plein de choses à dire. Bah, entre autres, il y a cette guerre, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas où Trump nous mène, sûrement dans ses intérêts financiers, mais est-ce que c'est l'intérêt de tout le monde ? C'est pas sûr. Alors, avant toute chose, ne pas oublier qu'il faut qu'on parle de samedi prochain, 14 mars, on va faire une marche contre les violences. Les violences d'État, toutes les violences, en fait. Hein. Michel, tu veux en dire quelque chose, non ?
Contre le fascisme.
Contre le fascisme aussi, oui.
Et contre le racisme.
Et contre le racisme.
Contre le racisme, contre les fascismes et contre les violences d'État.
Et à 14h30, Richard, tu disais, donc la manifestation sera à 11h, hein, comme tous les samedis, il y a ce rassemblement pour soutenir la Palestine, mais là, ça sera un rassemblement plus vaste, puisqu'on sera aussi contre ces violences, mais à 14h30...
Oui, les signataires donc ont convenu de se retrouver à 14h30 donc pour voir comment on peut constituer donc un front antiraciste, antifasciste dans la durée, parce que donc la période est quand même très très grave et il est important et urgent pour la gauche, les forces de gauche syndicales, associatives et politiques, de réfléchir à une riposte et à une manière aussi de résister à la montée de ce fascisme.
Alors, bon, montée du fascisme qui vient, entre autres, parce que Trump a pris le pouvoir aux USA. Hein. Moi, je trouve quand même que c'est quand même quelque chose qui a fait basculer particulièrement tous les pays vers ce truc très sympathique qui relie les gens. Alors, tu voulais au départ, il me semble, Michel, tu as parlé des démocrates, comment les démocrates résistent aux États-Unis. Il y a une vraie résistance qui se fait.
Ça, c'est sur la situation aux États-Unis, telle qu'elle est aujourd'hui.
Oui.
C'est-à-dire que, contrairement à ce que souvent les médias généraux parlent, aux États-Unis, il y a une très forte opposition qui se manifeste entre autres dans le cadre de DSA, démocratique socialiste américain, hein, qui le maire de New York, le dernier maire qui a été élu, les membres de celui-là, c'est des membres du Parti démocrate, donc sont intégrés dans ce parti, parce qu'aux États-Unis, pour pouvoir avoir des chances d'être élu, il faut être dans un des deux grands partis, mais qui casse un peu la routine et qui s'oppose. Et parmi ces batailles, ils ont aussi participé. Entre autres à la bataille qui s'est menée à Minneapolis contre les actions de l'ICE, c'est-à-dire la chasse aux émigrés aux États-Unis, et qui ont amené à faire reculer Trump. Trump a été obligé de retirer ses troupes de Minneapolis, et ça grâce à la mobilisation populaire et grâce aussi aux organisations ouvrières, aux organisations syndicales. C'est-à-dire qu'il y a eu toute cette bataille-là. Et ça, c'est la situation aux États-Unis. Après, l'histoire de la guerre, c'est pas tout à fait que l'histoire des États-Unis. C'est Trump qui continue, lui, comme son prédécesseur d'ailleurs, à défendre les intérêts de l'impérialisme américain à l'échelle de la planète. Et ils sont bien en mal.
Alors, en fait, on est quatre autour de la table et on va tous décliner d'une façon un petit peu différente la façon dont on perçoit le moment singulier dans lequel on est, avec cette montée du fascisme et cette montée aussi de... Alors, on nous balance que l'antisémitisme serait maintenant le nec plus ultra de la droite, en fait. Hein, les gens qui seraient... voilà, eux, au moins, ils sont contre l'antisémitisme. La droite. Hein, c'est pas ça que t'as retenu, toi, Cornélie ?
Bien, il me semblait, en fait, effectivement, qu'il y a comme un genre de glissement de terrain au niveau du sens des mots, probablement propulsé par Trump, qui représente, en fait, qui donne le « là » comme un espèce de chef d'orchestre mondial, actuellement, qui permet les mensonges à tout va, qui permet, en fait, de dire ce qui passe, ce qui arrange, sans se soucier de la véracité, en fait, de même comment ça peut passer. Il s'en soucie pas. Et donc, en fait, il y a actuellement, c'est mal vu d'être antifasciste, Et par contre, je veux dire, c'est quand même le monde à l'envers à ce niveau-là. Et ça me fait penser en fait à la pièce de Ionesco qu'on étudie quand on est en fait encore en collège, que j'ai lu il y a très longtemps, qui s'appelle Le Rhinocéros. Et qui décrit en fait ce phénomène d'influence des opinions, ce glissement de terrain. Au début, on a un rhinocéros qui passe dans la ville et tout le monde est offusqué, choqué, perdu, à peur, etc. Ils en parlent pendant longtemps et c'est un phénomène isolé. Et puis petit à petit, il y a de plus en plus de rhinocéros qui apparaissent. Les gens s'habituent. Bon, finalement, ils ne sont plus trop choqués et petit à petit, il reste plus qu'une poignée d'êtres humains. Et qui se demandent même si eux sont pas en tort et si c'est pas de bon ton d'être finalement un rhinocéros, de se transformer en rhinocéros, que ces rhinocéros sont tellement beaux et qu'ils voudraient leur ressembler. Et on est un petit peu dans cette chose où même des gens dits de gauche se mettent à tenir des discours qui étaient inimaginables, même il y a très très peu de temps, en fait, sur ce sujet-là, à considérer comme Olivier Faure de dire que l'antifascisme et le fascisme, ça serait un combat équivalent. C'est extrêmement choquant et c'est une faute énorme, en fait, politique.
En fait, c'est rhinocéros qui représente la brutalité, hein, la brutalité et puis la force brute qui écrase. Bon, un petit peu la même chose que ce qu'est en train de faire... je m'évade, là. Alors, tu parlais aussi d'Albanaise et puis de l'Espagne. C'est-à-dire, il y a les gens qui sont punis, les gens qui sont punis par ce système médiatique, médiatico-politique.
Oui, on voit donc l'Espagne qui, avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui est avec l'Irlande et la Norvège, c'était ça, hein, oui, c'est la Norvège également, qui s'oppose en fait à ces injonctions de Trump qui impose 5% des PIB à investir dans l'armement, qui impose les taxes douanières, etc., que von der Leyen sourit, serre la main à Trump et accepte. Il y en a quand même quelques-uns donc qui résistent. Mais quel est le prix de cette résistance? C'est d'être puni comme des petits-enfants. En fait, Trump très ouvertement dit qu'il va punir l'Espagne. Alors j'espère bien en fait que le reste de l'Europe va quand même réagir là-dessus sur ces méthodes-là, quoi. Et Albanaise, effectivement, Francesca Albanaise se retrouve va être punie, elle ne peut plus accéder à des services bancaires, y compris les juges de la Cour pénale internationale. Trump s'immisce dans le procès Le Pen également, en fait. Il cherche à influencer en fait sur les juges. C'est quand même incroyable.
Tout ce système, effectivement, qui part de travers. Michel, tu parlais du fait que, au fond, c'est la guerre entre les USA et la Chine, en fait.
Disons que ça, c'est l'objectif. Oui. En fait, de Trump et de l'impérialisme américain, c'est-à-dire c'est une guerre à la fois non seulement commerciale, parce que aujourd'hui sur le marché. C'est la Chine qui a le leadership. Et donc, ça fait de l'ombrage à, effectivement, l'impérialisme américain, même si une bonne partie des productions chinoises sont quand même sous capital américain. Donc, c'est ça. Mais c'est cette volonté de vouloir rééquilibrer. Et c'est donc de partir à la guerre. Et puis, il y a quand même une autre... Il y a une notion qui à mon sens, est importante, c'est que la guerre, pour l'impérialisme, c'est pas un choix. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour eux de manière à se sortir la tête de l'eau. Parce que le système économique, il est tel qu'il est en crise de façon permanente. Une baisse tendancielle du taux de profit qui continue. Et donc, pour se sortir de là, il n'y a qu'une façon, c'est d'engager la guerre. Et c'est vers ça qu'on va.
Alors, il y a en fait la rencontre de deux guerres, me semble un peu... Celle dont tu parles, c'est celle qui est la guerre de fond. Mais il y a aussi la guerre pour le grand Israël. C'est un petit peu de ça dont tu parlais, Richard, tout à l'heure.
Déjà rappelé, en fait, que le déclenchement donc, des hostilités, la guerre en Iran, elle est déclenchée par les États-Unis et Israël. Hein, ils sont des partenaires, ils ne sont pas que des alliés. Et d'ailleurs, donc, le gouvernement donc, d'extrême droite israélien a joué un rôle important dans la précipitation, c'est-à-dire que Trump réfléchissait, bon, il avait bien l'intention d'intervenir en Iran, mais Netanyahou a anticipé et a précipité un peu le déclenchement des hostilités. Et donc... notamment parce que ce gouvernement d'extrême droite, et notamment avec un ministre qui s'appelle Smotrich, qui a comme projet donc le grand Israël, c'est-à-dire donc construire un pays du Nil à l'Euphrate, donc c'est-à-dire donc après avoir réglé le sort des pauvres Gazaouis, il s'attaque déjà donc au Liban. Il était intervenu donc en Syrie, et c'est bien donc il profite donc de cette opportunité donc de guerre contre l'Iran pour construire donc le grand Israël. Et par ailleurs donc effectivement cette guerre s'inscrit effectivement dans une dimension impérialiste de la part des États-Unis pour dominer le monde et notamment le contrôle des ressources, mais également on peut parler d'impérialisme israélien, c'est-à-dire même si c'est un impérialisme à l'échelle régionale, mais Israël entend compter, contrôler tout ce qui se passe, contrôler la situation donc dans tout le Proche et Moyen-Orient.
Alors tu parlais aussi du fait que tout ça, ça se passe contre les peuples quelque part, c'est-à-dire que la révolte qu'il y a eu en Iran, donc tu voulais en parler hein, de la révolte en Iran, est-ce qu'on va libérer les peuples ou pas? Enfin, en fait, c'est pas ça.
Oui. La guerre n'a jamais été vraiment contre les peuples, pour les peuples, mais donc effectivement, donc après donc la révolte donc du peuple des peuples israéliens donc en janvier qui a été fortement réprimée.
Hein. Iranien.
Iranien, pardon. Des peuples iraniens qui a été fortement réprimé avec des dizaines de milliers de morts. Donc effectivement, on ne pense pas que l'intervention des États-Unis et d'Israël soit faite pour libérer donc ces peuples de la République des Mollahs ou la République islamique. C'est-à-dire que effectivement, c'est bien des enjeux géostratégiques, économiques qui sont à l'œuvre, et notamment par rapport à la Chine, mais aussi donc par rapport aux autres pays donc du Proche et Moyen-Orient.
Et de toute façon, la guerre qui se fait au Liban aussi, elle méprise complètement le peuple libanais, quelque part. On argumente comme d'habitude le fait qu'il y a sûrement un méchant qui se cache quelque part, comme ça on peut taper sur tout le monde, quoi.
Oui, il y a un non-respect de toute façon déjà du cessez-le-feu avec, oui. Avec le Liban. Et effectivement, je ne sais pas si on parlera du droit international, mais de toute façon, il est bafoué dans tous les sens. Il n'y a plus aucun respect des paroles données, et des engagements et des cessez-le-feu.
Alors Michel, sur la révolte en Iran et sur libérer le peuple aussi, tout à l'heure tu avais rajouté des choses par rapport à ça.
Mais j'avais dit que la bataille que nous on doit mener, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Oui.
Mais véritablement, c'est-à-dire c'est pas de dire voilà comment on aimerait bien que ce soit, c'est au peuple iranien de décider comment il veut être gouverné, comment il veut être. C'est ça le fond de l'histoire. Effectivement. Et c'est pas les interventions militaires, comme ça a été dit précédemment, qui vont résoudre les problèmes. Bien au contraire. Mmh. Les interventions militaires dans cette région du monde, ça va pas stabiliser les choses. Ça va au contraire entraîner le chaos. Et toutes les interventions qui ont déjà eu lieu de l'impérialisme, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak ou en Libye, tout ça, c'est du désordre. C'est du désordre dans toute cette partie du monde, et ce sera encore plus le désordre.
Mais en fait, ils affaiblissent pour faire des affaires, quelque part, les États-Unis.
Apparemment, oui.
Ouais, c'est un petit peu comme ça. Une fois que le pays est complètement démoli, ils peuvent aller chercher leur pétrole comme ils ont envie. Tu voulais parler un peu du droit international, Richard.
Non, mais enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Enfin, le droit international, bon, on peut dire qu'il est plus respecté. Bon, ça a été... On l'a vu avec la Russie en Ukraine. On le voit avec les États-Unis. Donc ça fait déjà un moment, donc il n'y a plus du tout de respect, et on voit comment, à quoi se limite le rôle de l'ONU aujourd'hui. Donc et puis par ailleurs, au sein du Conseil de sécurité, il y a des blocages qui font que il n'y a plus du tout de, on peut plus parler vraiment à proprement parler de droit international, même si certains, à l'image de Villepin, disent qu'il faut le réformer et que quand on bombarde un pays, on doit s'engager à payer les réparations. Bon, je doute que ce soit, puisse être accepté, ou ça puisse faire l'objet d'un consensus à l'échelle internationale.
Alors, bon, à côté de ça, on a aussi, nous, à l'intérieur du pays, un Macron qui continue à faire du en même temps. Donc, alors, il nous explique que, bah oui, il est quand même pas d'accord avec cette guerre, hein. Mais il laisse quand même les avions américains se poser sur la base de Istres. Donc les Espagnols, eux, sont tensés parce qu'ils ne laissent pas les avions se poser chez eux. Hein, mais voilà, Macron, lui, il les laisse se poser. Et puis Macron, quand même, avec Starmer et Merz, ont fait une déclaration commune que je trouve complètement absurde. Ils sont là en train de nous expliquer qu'il faut appeler l'Iran à mettre fin à ses attaques. Quand même, c'est une déclaration des trois ensemble, quoi. Hein. Ils sont là en train de dire non, nous on prend pas part à la guerre, mais il faudrait quand même que l'Iran, donc le droit à se
défendre
qui a été invoqué pour Israël, bah là l'Iran quand même non. Alors Cornélie, toi, tu nous disais voilà, par rapport à tout ça, on est quand même sur quelque chose qui a à voir avec deux poids deux mesures, par exemple les armes nucléaires. Alors par exemple l'Iran, c'est quand même, les États-Unis nous refont le sketch qu'ils nous ont fait pour la guerre en Irak, hein. C'est parce que l'armement nucléaire allait nous tomber dessus qu'il fallait les attaquer tout de suite, voilà, exactement comme ils ont fait en Irak, en nous expliquant qu'il y avait des armes de destruction massive, hein. Mais alors toi, Cornélie, tu t'es attaché au fait que Macron aussi nous parle des armes nucléaires en ce moment.
Oui, il annonce une augmentation de l'arsenal nucléaire et il intègre en fait dans cette annonce une collaboration avec l'Allemagne qui pourtant est soumise à un traité, un traité qui a été signé en 1990, qui l'interdit d'avoir le contrôle sur, qui interdit l'Allemagne d'avoir un contrôle sur une arme nucléaire. Donc en fait, Macron enfreint déjà cette réglementation et une autre qui a été signée en 1958, qui est pour la non-prolifération de l'armement nucléaire. Donc en fait, tout le monde s'assoit en fait sur toutes les règles. C'est ça en fait le trumpisme, c'est-à-dire que il y a des règles et en fait elles sont enfreintes et c'est comme si elles n'existaient plus. Donc qu'est-ce qui reste ? La loi de la jungle, et j'ai beaucoup de respect pour la jungle, parce que voilà. Mais donc c'est ça le problème avec Israël a bien le droit de se défendre, ce leitmotiv qu'on a incessamment entendu. Alors bon, oui, ça pourrait s'entendre, mais l'Iran a bien le droit de se défendre aussi. Enfin, dans ce cas-là, je veux dire, pourquoi l'Iran est tellement armé jusqu'aux dents, jusqu'aux profondeurs des terres, de partout, et probablement cette guerre ne mesure peut-être pas la quantité de missiles que l'Iran il a encore en stock et la possibilité de faire durer les répliques, parce qu'elle a bien, effectivement, aussi le droit de se défendre, en fait. Et c'est ce qui se passe. Et donc, on peut pas... On peut critiquer l'Iran sur toutes les formes, et puis on peut regretter qu'elle fonctionne comme elle fonctionne, mais c'est aussi une logique qu'avec un voisin comme Israël qui s'est armé jusqu'aux dents, qu'en face, autour, on ait besoin de s'armer aussi. En fait, c'est une logique.
Alors, tu nous as fait une toute petite aparté tout à l'heure en nous parlant aussi du fait que, en ce moment, il y a des élections en France et que, évidemment, on nous met en avant la sécurité, la sécurité, la sécurité.
Oui, j'étais un petit peu sidérée. Je regarde le journal de la 2, bon, pour voir comme ça la globalité de ce qui est donné dans les médias mainstream. Et puis on constate que quand on parle des élections à venir qui commencent la semaine prochaine, on nous dit que la préoccupation principale des Français serait la sécurité. Alors l'insécurité a baissé les trois dernières années. Ça, c'est les chiffres de la police officielle, en fait. On peut les consulter. Donc, en fait, la réalité, c'est que les délits, les agressions, la délinquance a baissé. Donc, cette insécurité, elle est plutôt ressentie que réelle. Alors, comme la température en hiver, hein, moins 5, mais ressentie 10. Bon, n'empêche que ce qui compte, c'est le moins 5, c'est pas le ressenti de moins 10. Et en fait, il y a une espèce d'insécurité, sentiment d'insécurité qui est inculqué par des médias et avec une volonté, évidemment, de manipuler les esprits pour que on suppose que c'est l'insécurité qui prime. Mais non, pour la population, la large partie de la population, ce qui compte surtout, c'est il y a 15% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, qui a des problèmes en fait de sociaux immenses en fait dans le pays, et les services sociaux qui s'écroulent, l'hôpital à qui on enlève encore des sommes faramineuses, l'école à qui on enlève encore 4000 professeurs, etc. Ça, c'est des choses qui préoccupent vraiment les Français. Mais on nous dit que c'est la sécurité. Ben non, je pense pas. C'est une
la
erreur.
Sécurité ou la guerre. Hein. Alors, toi, Michel, tu nous parlais de Jean Jaurès. Et tu
non, mais c'est la guerre.
Hein,
c'est pour la guerre.
Oui.
C'est-à-dire que c'est la marche à la guerre. Voilà. C'est-à-dire que le dernier budget adopté par 49-3 dans notre pays, ben c'est un budget de marche à la guerre. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer ça. Alors après, se pose la question, c'est que on peut faire des constats. Les constats de la situation, et c'est comment éventuellement on peut s'inscrire en opposition à cela, et comment on peut s'inscrire de façon concrète à cela. Bon, je ne sais pas si j'ai le temps de dire juste un petit passage de ce que dit du point de vue. Dont j'ai
encore 2 minutes, voilà, et Richard doit encore un peu parler, peut-être.
C'est Jean Jaurès qui déclarait ça à Vez le 25 juillet 1914, soit quelques jours avant d'être assassiné. L'Europe se débat dans un cauchemar. Quoi qu'il en soit, citoyen, et je dis ces choses avec une sorte de désespoir, il n'y a plus, au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie, qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation. C'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces qui comptent un grand nombre de frères, français, anglais, allemands, italiens, russes, et que nous demandions à ces milliers d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. Il n'a pas réussi à faire ça, et la guerre a eu lieu. Aujourd'hui, je pense qu'on est en capacité de s'opposer à cette marche à la guerre, assez rapidement. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises à l'échelle internationale pour construire justement ce que Jaurès appelait de ses voeux, une véritable internationale, avec des multiples organisations à la fois syndicales, politiques et associatives et militants pour la paix, pour construire et s'opposer à cette guerre, et en particulier à s'opposer chez nous à la marche à la guerre.
Alors, Richard, tu parlais aussi des résistances qu'on peut avoir.
Oui, il y a effectivement des résistances armées donc en Iran, dont on ne parle pas. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, donc, effectivement, c'est que alors que le discours de nos dirigeants devrait être d'appeler donc au cessez-le-feu, à l'arrêt des bombardements de la part d'Israël et des États-Unis. Moi, j'ai envie d'exprimer, en tant que militant politique, syndical, ma solidarité avec les peuples d'Iran en lutte contre le régime tyrannique, la République islamique, mais exprimer aussi une solidarité internationaliste avec les peuples palestiniens, libanais, ukrainiens et iraniens, pour l'expression de leur droit à l'autodétermination sur leur territoire, sur leur sol.
Merci. Voilà, on est tous bien d'accord. Alors, Cornélie, tu as 1 minute pour nous lire un petit texte qui va nous faire réfléchir.
C'est un petit texte qui est extrait d'une pièce de Édouard Bond qui s'appelle « La fureur des nantis ». Ça a été écrit dans les années 90-2000. Beaucoup de gens vivent au pied d'idoles de pierre et dans leurs ombres froides. Comment pourraient-ils savoir ce qui est vrai si les journaux et les radios mentent si souvent? On ne demanderait à personne de traverser un océan à la nage et d'éteindre un volcan à main nue. Pourtant, on demande aux gens d'être vertueux quand ils travaillent pour des voleurs. On demande aux gens d'être philosophes alors qu'ils vivent dans le bruit d'immeubles où personne ne peut penser, d'apprendre l'art de vivre en paix quand chacun doit concurrencer son voisin pour trouver du travail. On demande aux gens d'être généreux quand il leur faut en même temps mendier les aumônes accordées par l'État. Et pourtant, ils transforment chaque maillon de leur chaîne en l'œil brillant d'un enfant. Ils grandissent alors que ces chaînes s'enfoncent dans leur chair, contraignent leurs os. Pourtant, ils restent dignes. Ils brillent comme une flamme au plus fort de l'orage. Nous sommes trop bons, trop généreux, trop acquis à la raison. Certains hommes sont entraînés pour accomplir qu'une seule action, appuyer sur un bouton. Les dirigeants se débarrassent du monde comme d'un paquet de cigarettes dans un bac à cendres. Comment ne sommes-nous pas encore devenus fous ?
Allez, à la semaine dans 15 jours. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.